Chapitre 30 2019 Paupières closes. Le Chevy van est plongé dans l'obscurité. Une demi-seconde seulement, je ne parviens pas à garder les yeux fermés. Quand je les ouvre, la première chose que je découvre est la gorge de Flo, rouge de sang. Le poignard de Robusto est toujours posé sur son cou, mais la lame ne s'est pas enfoncée. Pas encore. Je croise le regard déterminé du tueur, alors qu'Altoïd, indifférent, se contente de m'interdire tout mouvement. Un simple boulot à exécuter pour eux. Égorger Flo d'abord, moi ensuite. Je perçois l'esquisse du geste de Robusto pour en finir, à peine une torsion de poignet, suffisante pour trancher une carotide. Le monde chavire alors. Un tremblement de terre. Un choc insensé soulève le camion, projetant contre la carrosserie tout le bric-à-brac d'objets stockés à l'arrière, instruments de musique, boîtes de conserve, verres et couverts, matelas qui se dressent, assiettes qui se brisent. Comme si un ouragan s'était engouffré dans le Chevy van. Le couteau que tenait Robusto vole jusqu'au tableau de bord. Altoïd, surpris par le séisme, est projeté contre l'armature du fauteuil passager. Je n'entends rien de ses jurons, ni des ordres de Robusto, couvert par la sirène qui s'est déclenchée à l'instant même où la carrosserie a vacillé. Je parviens à rouler en boule sous le choc. Flo a également le réflexe de se recroqueviller. Les parois du camion vibrent encore, mais c'est désormais le vacarme qui impressionne. Le hurlement d'un klaxon. Robusto est solide. Il a à peine trébuché sous l'impact. Il reprend ses esprits et jette un œil par la vitre du Chevy. Une voiture, une Buick Verano, a foncé tout droit dans le camion, façon bélier. Le conducteur est le type qui avait cogné au carreau il y a quelques minutes, celui à qui il avait fichu la trouille, qui avait disparu. Il est revenu. Je les observe, pétrifié. Le premier réflexe de Robusto et de son complice est de régler son compte à ce cinglé. C'est déjà trop tard. Le choc de la Buick sur le Chevy van, le klaxon qui beugle sans discontinuer, ont alerté le quartier. On entend au loin une véritable sirène, de police cette fois, dont le son s'intensifie, indiquant qu'elle s'approche. « On se tire !» ordonne Robusto. Il disparaît sans ramasser son couteau, sans attendre son complice qui tient le haut de son pantalon à deux mains et amorce un sprint de pingouin pour le rattraper. Je respire. J'attrape presque à tâtons la main tremblante de Flo. La Buick Verano de location est foutue. Nous sommes sauvés. Jean-Max joue les héros. Il ne se lasse pas de raconter son exploit. Il l'a testé d'abord devant les promeneurs du Chicano Park, puis amélioré devant les flics du commissariat du Barrio Logan, pour parvenir à parfaitement le maîtriser devant les navigants du Boeing Los Angeles-Paris. Ni Flo ni moi ne pouvons lui en vouloir, qu'il le raconte en boucle s'il le veut pendant des décennies. Il nous a sauvé la vie. J'ai eu du mal à comprendre, tout comme les premiers policiers parvenus sur place, comment Jean-Max avait pu nous retrouver. L'explication est pourtant simple. Le commandant Balin, à peine une heure après nous avoir quittés sur le parking de San Isidro, en avait déjà assez de traîner avec Charlotte dans les rayons des outlets. Il a envoyé un texto à Florence. « Où êtes-vous ? » Flo lui a répondu en postant quelques photos des fresques murales. Un petit jeu de piste commençant par la voiture de location garée à l'entrée du Chicano Park et s'achevant par le camion garé sous le pylône de la Saldadera. Jean-Max a suivi la piste, collé son nez à la vitre du camion et nous a aperçus à l'intérieur, terrifiés. Il a masqué sa surprise, simulé sa fuite sous la menace du couteau de Robusto et a ensuite improvisé. Appeler la police et, sans attendre son arrivée, boucler sa ceinture de sécurité, démarrer la Buick Verano et accélérer pour la projeter sur le fourgon sans cesser de faire hurler son klaxon. « Vous avez eu de la chance », explique le commissaire du Barrio Logan. « Beaucoup de chance. Vous promener ainsi toutes les deux dans ce quartier n'était pas très raisonnable. J'ai vite compris que les flics ne vont pas chercher plus loin que la piste de petits voyous surpris dans leur trafic, ou même attirés par deux femmes, certes de l'âge de leur mère, mais seules. On les retrouvera, madame, avec vos portraits robots, l'ADN qu'ils ont laissé un peu partout. On les retrouvera. Flo a l'air de se contenter de l'aversion des policiers. Elle baisse la tête sagement devant les réprimandes du vieux commissaire qui s'exprime dans un mélange d'anglais et d'espagnol, acquiesce quand il lui parle de drogue et de viol à répétition, quand il lui martèle les chiffres consternants et exponentiels de l'insécurité dans le quartier. Ah, si notre témoignage pouvait dissuader d'autres touristes d'une telle imprudence. Il y a déjà tellement à faire, si en plus il faut protéger les étrangers. Flo promet, pour elle et moi, qu'on ne recommencera pas, qu'elle ne sait pas ce qui nous a pris, que tout de même, les fresques sont jolies. Elle ne me charge pas, ne raconte pas que je me suis approchée du camion jusqu'à regarder à l'intérieur ce qui s'y tramait. Mais je devine qu'elle m'en veut. Évidemment qu'elle m'en veut. Son cou porte encore la marque rouge d'une lame qui a failli l'égorger. Sa cuisse est entaillée, sans profondeur, sur une partie de sa longueur. Je me sens honteuse de continuer de lui mentir, de ne pas lui dire la vérité au moins, ni à elle, ni à Jean-Max, ni aux policiers. Mais que puis-je leur avouer? Que ce camion était déjà garé là, devant ce même pylône il y a 20 ans. Que j'y ai passé la plus belle nuit de ma vie avec mon amant. Que tout recommence, inexplicablement. Peut-être par la magie d'une pierre de temps qui apparaît et disparaît dans mon sac à main. Que c'est moi que ces types ont suivi, puis identifié grâce à mon tatouage. Que c'est moi qu'ils voulaient assassiner, tout comme ils ont tenté de tuer mon amant à Paris, à 10 000 kilomètres d'ici. Puis-je vraiment leur raconter tout ça dans un mauvais mélange d'espagnol et d'anglais? Jean-Max a été accueilli en héros dans les locaux du personnel de l'aéroport de Los Angeles. Les péripéties, lors des escales, se répandent plus vite qu'un scoop repris en direct par BFM TV. Les navigants tuent le temps collés sur des écrans, infos en boucle, sport en continu, et alertes sur les réseaux sociaux en rafale. Le commandant Balin s'est chargé de faire monter l'adrénaline. Photo de la Buick Verano de location ratatinée. Reportage direct live Inside Police Patrol. Texto rassurant alors que tout le monde ignorait encore ce qui s'était passé. Deux hôtesses agressées, un commandant de bord les sauve grâce à un réflexe insensé. Flo elle-même, devant l'attention des navigants de diverses nationalités, paraît oublier petit à petit le traumatisme et parvient à plaisanter. Son foulard rouge masque la plaie sur son cou et elle soulève avec un grand sourire son uniforme pour montrer l'entaille sur sa cuisse, en précisant qu'elle n'a heureusement plus l'âge de porter sa jupe au-dessus du genou. Des stewards suédois, un commandant de bord coréen particulièrement baraqué et un adorable copilote portugais aux tempes grisonnantes semblaient tous prêts à la consoler. Je la laisse. Je sors dans le couloir pour téléphoner à Olivier. Ne lui en dire que le minimum pour ne pas l'effrayer. Mais le prévenir tout de même. D'une façon ou d'une autre, il l'apprendra par des collègues lors d'une soirée. Et surtout, pourquoi me mentir? J'ai besoin de lui parler. Même en lui cachant la majeure partie de la vérité. Minimiser. Minimiser autant que Flo et Jean-Max en rajoutent. Ces types ne nous ont pas touchés au lit. Des petits voyous. Ils ont eu aussi peur que nous, ils se sont tout de suite sauvés dès que le quartier a été alerté. Ma stratégie pour rassurer mon mari ne semble pas véritablement avoir fonctionné. « Je viens te chercher », conclut Olivier avant de raccrocher. « Je viens te chercher à Roissy. Je t'attendrai à l'arrivée. » Comment refuser? En lui expliquant « Non, chérie, ne te donne pas cette peine. J'ai mieux à faire que de me blottir dans tes bras. » Quelqu'un m'attend à l'hôpital Bichat. Quelqu'un que je n'ai pas revu depuis si longtemps. Mon ex-amant. Mesdames et messieurs, c'est le commandant Jean-Max Balin qui vous parle. Nous allons bientôt décoller de Los Angeles et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Pour la première fois au monde, notre Boeing AF-485 est équipé de lance-roquettes air-sol. Les passagers assis près des ailes peuvent sans doute les apercevoir. Nous rallierons Paris non pas en survolant l'Amérique et l'Atlantique, mais par l'Est. Et nous aurons l'honneur de nous alléger à mi-parcours de deux missiles Tomahawk que l'ONU m'a personnellement demandé de larguer sur Pyongyang. Rassurez-vous, la vitesse de croisière de notre Boeing est sensiblement supérieure à celle des chasseurs nord-coréens, chinois et russes. L'avion survole maintenant l'Atlantique, même si quelques passagers crédules continuent de se tordre la tête pour identifier l'océan en dessous. Jean-Max attend que la lumière de l'avion s'éteigne, que les derniers plateaux soient desservis et que les passagers soient pour la plupart endormis pour nous inviter à le rejoindre dans le cockpit. Charlotte, Florence et moi. Il ordonne avec autorité au jeune copilote de nous laisser. Le gamin ne discute pas. Le commandant reste un long moment à fixer devant lui le ciel étoilé. « Je croyais que je ne les supportais plus », finit-il par avouer, plus sérieux qu'à l'accoutumée. « Toutes ces étoiles, à longueur de nuit. Même une fois posées, quand je ferme les yeux, quand je m'endors, je les vois encore. Elles vont me manquer. » Nous ne répondons rien. Charlotte joue avec sa montre Lolita Lempicka, une petite folie qu'elle s'est offerte aux outlets. J'ai passé beaucoup de temps avec elle depuis que l'on a décollé, pour la rassurer elle aussi. Elle nous a retrouvés au commissariat, paniqués, sortant du taxi les bras emplis de sacs, partagés entre euphorie et tétanie. Les filles, c'est sûrement mon dernier vol. Allez, ne jouez pas les étonnés. Vous savez parfaitement qu'une mise à pied pend au-dessus de ma tête. Ce genre de rumeur court encore plus vite que celle d'un commandant qui se prend pour Bruce Willis. À 6 mois de la retraite, je pouvais me le permettre. J'ai joué et je me suis fait gauler. Je suis consciente de ce que je dois à Jean-Max. Je pose une main sur son épaule. Tu t'en sortiras avec juste un blâme. T'es une légende. Tout le monde veut voler avec toi. On témoignera. On sera des centaines. Des milliers, précise Jean-Max. Si tu mobilises toutes mes ex, des milliers. Charlotte rougit, met la main devant sa bouche et mordille le bracelet de sa montre. Flo hésite sur la conduite à tenir. Elle n'a jamais beaucoup apprécié Jean-Max, et encore moins son attitude envers les femmes. Mais s'il n'était pas arrivé avec sa voiture bélier, elle prend la parole à son tour. « Ok. Sœur Emmanuel t'a dénoncé. Tu la connais, intraitable sur la sécurité. Mais on la raisonnera. Elle ne te chargera pas, elle relativisera à elle. » « Il n'y a pas que ça. » Jean-Max a coupé Flo sans cesser de fixer les étoiles, concentré sur la voie lactée. « Il n'y a pas que ça. » répète le commandant. Je me suis grillé quand ils m'ont convoqué. Ils m'ont forcé à me confesser, j'ai fini par avouer un péché. Mais pas celui dont j'étais accusé. Un péché. Un autre péché que de baiser dans un cockpit au-dessus de l'océan. Je m'attends au pire. Jean-Max lâche une main des commandes et fait semblant de se signer. Mes sœurs, depuis des années, j'ai monté un petit trafic d'alcool. Je le fais passer hors taxe et hors contrôle sanitaire, en petite quantité. De la haute qualité pour des clients privilégiés. J'ai mes filières, des vodkas exceptionnels en Russie, des vieux rhums agricoles. La semaine dernière, à Montréal, j'ai déniché un whisky canadien rarissime, un Alberta Premium. Je revois Jean-Max dans le magasin de la rue Saint-Denis du Vieux-Montréal, échangeant des dollars canadiens avec des types aux allures de mafieux. De la contrebande. Enfin un autre mystère s'explique, même s'il rend le commandant encore moins facile à cerner. Pilote hors pair, dragueur compulsif, héros qui vient de me sauver la vie, traficoteur de planning, et maintenant contrebandier en vin et spiritueux. Quelques cadres haut placés ont bien profité de mes petits cadeaux, mais les bœufs-carottes du ciel, eux, ne m'en feront pas. Ils voudront tout savoir, pas seulement pour le trafic, également pour le dérapage dans le cockpit. Charlotte rougit. Flo le regarde, semblant se demander s'il aura la grossièreté de révéler le nom de l'hôtesse avec qui il a fauté. « Je leur balancerai le nom de toutes mes fillettes », admet Jean-Max avant d'énumérer en souriant. « Monopoloa, Zubrovka, Havana, Alberta. » Une nouvelle fois, le courage de Jean-Max me surprend. Je le crois. Il tiendra bon. Il ne donnera pas le nom. Selon toute vraisemblance, c'est avec Charlotte qu'il s'est fait prendre. Mais si Emmanuel ne la dénonce pas, il ne le fera pas non plus et portera seul la responsabilité. Chapeau. Allez, ne soyez pas tristes, mes sœurs. Je vais négocier avec Air France une dernière chance. Ça vous dirait de tous nous retrouver dans 10 jours, sur le vol pour Jakarta. Depuis le Chicano Park, faut que j'assume ma légende de héros, et ils ont sûrement besoin de moi là-bas. Jakarta. Je repense aux paroles de Laura, juste avant mon départ. Tu ne suis pas les actualités, maman. Le tsunami. Les vagues hautes de 5 mètres, les maisons balayées à Sumatra, à Java, les milliers de gens sans abri. Un tsunami. Mon tsunami. Où tout commence et tout finit. On cogne à la porte du cockpit. Le copilote s'impatiente. Patricia, la chef de cabine, se tient derrière lui et nous réclame elle aussi. Il nous faut sortir, retourner travailler, laisser Jean-Max piloter. Le commandant nous adresse un dernier clin d'œil. Je devrais être rassurée, tout est rentré dans l'ordre. Quelques mystères supplémentaires se sont même éclaircis, et tout au bord du gouffre, j'ai pu compter sur mes amis. Pourtant, je n'arrive pas à me défaire d'une sensation de malaise. Elle n'a pas cessé de me hanter dans la promiscuité de cette cabine, de s'insinuer, de progresser. Je fixe successivement le pilote et les deux hôtesses sans qu'ils s'en aperçoivent. Je repense à nos conversations échangées depuis Montréal, depuis Los Angeles, depuis San Diego. Je tente de chasser cette vilaine impression. Je tente de me convaincre qu'elle n'est qu'une trahison, mais plus je la repousse et plus elle revient comme une évidence. Toutes les paroles que nous avons échangées sont truquées. Tous, absolument tous, Charlotte, Flo et Jean-Max, me mentent. Dans l'avion, nous nous relayons entre hôtesses pour dormir chacune quelques heures. 2 ou 3. C'est mon tour. Je n'arrive pas à trouver le sommeil. Des interrogations tournent en boucle. Des contradictions. Je me sens maladivement honteuse de soupçonner mes collègues. Mais comment expliquer autrement l'inexplicable? Mes papiers d'identité, par exemple. Je les ai retrouvés dans ma valise, sur le lit de ma chambre de l'Ocean Lodge Motel. Je suis pourtant certaine de les avoir emportés pour passer la frontière mexicaine. La solution est simple, et Flo me l'a servi. J'étais tellement stressée que je les ai oubliés. Ok, Flo, ok, je ne vais pas insister. Même si... Un type me frôle, s'excuse par réflexe et s'arrête devant la porte des toilettes, visage fatigué, portable à la main et écouteurs enfoncés. Il ressemble un peu à Olivier, même si je n'ai jamais vu mon mari écouter de la musique avec un appareil vissé dans ses oreilles. Je souris au noctambule, puis je laisse ma mèche grise retomber en baldaquin devant mes yeux. J'aimerais tant dormir. J'aimerais tant me déconnecter. J'ai hâte de rentrer chez moi, de retrouver mes filles, de garder mes petits-fils, de reprendre ma vie de mère et de grand-mère. Une vie simple, une vie sans mensonges. Sans mensonges depuis que Margot est née. Mes interrogations reviennent au galop. On veut me faire payer un mensonge commis il y a presque 20 ans. Un mensonge terrible, jamais avoué. Mais depuis, la scène a coulé. On veut pour cela me tuer, comme on a voulu tuer Iliane. On veut me rendre folle, autant que je fus folle de lui. Je réalise que petit à petit, ma lucidité s'étiole. Balayée par ma mèche, mes paupières se ferment. Vais-je enfin parvenir à m'assoupir? Bercé par le roulis, mes pensées se fondent dans le même coton que les nuages que nous traversons. Des voix se mélangent, des visages se superposent, des musiques m'apaisent. Quelques accords de guitare jouent en sourdine dans le silence de mon cerveau. Quelques notes de piano sur lesquelles se posent des mots. When the birds fly from the bush, there will be nothing left of us. Quelqu'un me les chante, à peine un murmure, susurré au creux de mon oreille. Les mots d'Iliane, nos derniers mots, que je traduis dans ma tête. Quand les oiseaux envolés du buisson où l'on s'aimait, il ne restera rien de nous. Je rêve forcément. Même si j'ai l'impression que quelqu'un les fredonne vraiment, tout doucement, tout près de moi. Ce type qui attendait pour aller uriner. Je suis définitivement cinglée. Je suis pourtant persuadée de ne pas délirer. Ces mots sont prononcés par un homme, pour de vrai, à côté de moi. J'hésite à ouvrir les yeux. Je les ouvre enfin. Les paroles s'envolent. Il n'y a personne devant moi, personne dans le couloir. Seules les toilettes sont occupées, évidemment par le type qui ressemble à Olivier. Je deviens dingue. Je veux me réveiller. Je ne veux pas sombrer. Je vais m'accrocher. Je vais oublier le passé, l'enterrer, le balancer. Je voudrais pouvoir ouvrir le hublot et jeter à travers les nuages ma pierre de temps, celle que j'ai abandonnée pourtant au bord de la Seine. Chez moi. Je veux rentrer chez moi. Je sors mon téléphone. Je sais désormais que je ne dormirai pas. Mes doigts caressent la coque rose, accrochent l'hirondelle noire esquissée d'un trait de stylo. Je lis et relis le texto que Laura m'a envoyé avant mon départ de LA. Elle n'y parle ni d'Iliane ni de l'hôpital. Elle écrit simplement « Rentre vite, maman. Moi, Margot et les jumeaux, on a une surprise pour toi ».